et des angoisses et le martyre. Seigneur, nous te prions pour ceux qui, en ce moment, passent par le martyre. Soutiens-les, fortifie-les, console-les. Seigneur, que ta bonté, ta grâce leur soit accordée pour traverser ce moment très difficile de donner sa vie pour toi. Seigneur, sois loué. Mais tu le fais. Nous savons que tu le fais. Nous l'apprenons par les témoignages que tu le fais. Sois loué, béni, adoré, Seigneur Jésus. Amen.
C'est que le Seigneur utilise cela pour nous changer aussi. Nous prions pour que l'autre change.
Mais
Dieu nous dit, je veux utiliser cette circonstance pour te changer aussi. Ça, c'est un point important. C'est au fur et à mesure que nous, dans notre attitude, on a été plus dans la foi, dans l'espérance, dans une plus grande ouverture, que le Seigneur agir aussi. Et donc, il a fallu qu'on change aussi, finalement. Cette épreuve-là nous changeait d'abord nous-mêmes. Et c'est dans la mesure où on change nous-mêmes que nos prières changent
aussi,
et deviennent plus efficaces. Donc, il ne faut pas oublier que le Seigneur utilise ça pour nous changer aussi, pour nous parler aussi, pour nous enseigner aussi. Et c'est pour ça qu'il faut être ouvert pour apprendre tout ce que le Seigneur veut nous apprendre dans tout cela. La persévérance, la patience, le pardon, enfin, tout ce qu'il faut pour qu'on soit dans sa main des instruments qu'il pourra ensuite, après, utiliser. Donc, on fait du bien à l'autre, mais l'autre aussi, indirectement,
nous fait du bien. Nous transforme.
Parce que c'est quelque chose qui agit au plus profond de nous-mêmes. On ne peut pas être insensible à ça. Donc, il ne faut pas se décourager, finalement, en cherchant à sauver l'autre, à le changer. Eh bien, le Seigneur veut nous changer aussi. Ce n'est pas un sens unique. C'est ça, il faut qu'on soit ouvert de ce côté-là. Si on était resté bloqué, on bloquait tout. Bien souvent, c'est nous qui bloquons la situation. J'ai vu avec des bois, des fois, j'ai utilisé des méthodes qui n'étaient pas bonnes. Quand tu élèves la voix, quand tu vois... pas de résultat. Il n'y a rien du tout. Il a fallu que je monte demander pardon.
Moi aussi, combien de fois
j'ai pas bien parlé, pas fait comme je...
combien de fois.
Puis je voyais que ça lui...
Ça l'apaisait.
Elle attendait ça aussi. Donc tu vois, ça aussi, ça fait partie de sa guérison.
Il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas pu dire.
Tu vois, c'est pas seulement le Seigneur agit dans l'autre et puis nous, comme si il n'a rien à faire en nous. Non, c'est tout est bien imbriqué l'un dans l'autre. Et l'un dépend de l'autre aussi. Et je vois, là, si on a une mauvaise attitude, les choses peuvent de nouveau
se bloquer.
Mais si on a la bonne attitude, on voit que ça va mieux. Alors, je fais plus attention maintenant. Je sais que j'ai dû changer de fusil d'épaule.
Ça, c'est au niveau caractère. Disons que le réveil, quand même, qu'il y a eu dans son... Avant, on ne pouvait rien faire. On faisait blanc, c'était mal. On faisait noir, c'était encore mal. Il n'y a rien qui passait, là. Mais maintenant, des choses passent. Alors, c'est différent.
Mais c'est pour dire que tout est imbriqué l'un dans l'autre. Voilà, il ne faut pas... Et Dieu utilise aussi cela pour nous parler,
nous changer.
Voilà, c'est lié. Il ne faut pas qu'on soit seulement bloqué. C'est l'autre qui doit changer et moi, pas. Ça, c'est une erreur.
Moi, je ne suis pas là. C'est vraiment moi, je sais que c'est moi.
Alors, c'est à partir du moment où...
C'est moi-même.
Oui, mais Il faut être volontaire, simplement. Et puis déposer les armes. Mm-hmm. Ne pas chercher à te changer toi-même et à vouloir te présenter devant Dieu par tes propres forces et tes propres capacités.
Mais j'ai remarqué,
il faut le faire aussi.
J'ai dû monter là.
Oh,
je baissais la tête. C'était pas trop rigolo.
Bien sûr.
Des parents qui demandent pardon à leurs enfants, parfois c'est nécessaire.
Ah, mais c'est indispensable. Indispensable. Combien de fois je suis montée leur demander pardon à nos filles là.
J'ai parlé un peu.
Oh là là.
Combien de fois qui n'étaient pas bien des parents.
Oui.
Puis elle était d'accord. Je voyais que c'était comme un baume.
Oui, ça l'apaise.
Mais tout ça, ça fait partie aussi de son cheminement de guérison en elle comme en nous.
Ah oui.
Parce que s'il n'y avait pas ça, nous-mêmes, on peut se bloquer. Et si on se bloque, on bloque tout aussi. Donc, c'est lent, mais c'est profond. C'est lent parce que ça va en profondeur. Alors, il ne faut pas se décourager pour ça.
C'est vrai.
C'est lent, mais c'est profond. Et si c'est profond, c'est bon. C'est bon. Il ne faut pas que ce soit trop superficiel. En profondeur, c'est lent. Mais on voit, on avance.
Voilà.
Il ne faut pas se décourager.
Alors moi, je vais ajouter ça, parce que moi aussi, le Seigneur m'a corrigé. Il m'a dit, je crois deux fois, très fort, il m'a dit, tu dois l'aimer davantage. Tu dois l'écouter davantage. Tu dois la respecter davantage. Pourtant, elle était agressive, elle ne pouvait pas me voir, elle était méchante avec moi. Mais moi, le Seigneur m'a dit, toi, tu dois l'aimer plus. Toi, tu dois l'aimer. Et quand, au moment où j'ai eu la victoire là-dessus, alors, les choses ont commencé à changer aussi, de l'autre côté. Mais c'était aussi par moi que ça a commencé. Pareil. Et puis, on peut dire, dans l'ensemble, tous les deux, au travers de ces 23 ans de souffrance, on a la compassion pour les autres a grandi en nous. On n'était pas comme ça il y a 23 ans. Quand quelqu'un souffre, on souffre avec la personne. On est moins dur avec les autres. On comprend mieux la souffrance des autres. On prie mieux. On est plus efficace dans nos prières pour les autres.
Et tu es sûr que plus tard,
c'est certain. C'est certain, ça.
Pour aider d'autres
personnes. Sans qu'on s'en rende compte.
Et il est resté ouvert. Et il a cessé de couler. Et l'autre aussi a cessé de couler. Elle a pu faire tout son travail pendant 3 jours à la table de librairie. Et le soir, elle est rentrée. Elle est rentrée et son mari était émerveillé, touché. Et puis, elle lui a dit, tu vois, je t'avais dit que le Seigneur allait m'aider. Et le Seigneur a touché, je pense, le cœur de cet homme, c'est pas possible autrement. Il l'a vu partir dans un état épouvantable. Mais le Seigneur, dans sa compassion, sait intervenir de la meilleure façon. Et la fin de l'histoire, c'est que le Seigneur a vraiment été glorifié dans cette histoire-là. Parce que cette femme est allée voir, quelques jours après, son ophtalmologue, celui qui l'a opéré. Et l'ophtalmologue, quand il a vu cette femme arriver, comme ça, avec les yeux parfaitement, bien, parfaitement, guéri, même celui qui venait d'opérer, il a dit, c'est pas possible, madame, qu'avez-vous fait? Mais qu'avez-vous fait avec votre œil? Qu'est-ce que c'est? Et puis, elle a raconté, c'est le Seigneur qui m'a touchée. Lui, il a dit, écoutez, je peux pas le croire, je peux pas le croire, c'est pas possible. En 4 jours, là, le Seigneur peut pas guérir ça, c'est impossible. Alors il est allé chercher 4 de ses collègues. Ils étaient à 5 ophtalmologues, 5 docteurs qui ont examiné les yeux de cette femme. Ils ont dit, c'est vrai que tu as opéré cette femme, c'est pas possible. Ils disaient, écoute, c'est pas possible. Ils ont tous dit, devis d'ophtalmologue, on n'a jamais vu ça. Mais le Seigneur est assez puissant. Alléluia! Applaudissons le Seigneur. C'est justement parce qu'on n'a jamais vu ça que Dieu est glorifié. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu fais des choses étonnantes pour nous. Pour toi, il n'y a rien d'étonnant. Y a-t-il quelque chose d'étonnant venant de la part du Seigneur ? Rien du tout. Alors attendons-nous à sa parole, à entendre sa parole, à l'entendre nous parler et préparons notre cœur. Parce que le Seigneur va agir au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, tu es merveilleux. Toi seul peux faire de telles choses dans ta compassion infinie. Seigneur, combien cela nous surprend. C'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Même lorsque nous croyons en toi, nous sommes toujours étonnés, surpris. Seigneur, tu es tellement au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Tu es un Dieu merveilleux. Nos cœurs ne peuvent que t'adorer, te courber devant ta majesté, ta compassion. Seigneur, merci. Et à ton nom soit toute la gloire. Combien tu veux nous aider, combien, Seigneur, tu veux agir. Que nos cœurs soient bien disposés, toujours à te recevoir, à entendre ta voix, à t'obéir, à te faire confiance. Seigneur, que ce soir encore, tu puisses étendre tes mains bénissantes sur chacun d'entre nous. Mais que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux faire. Que nos oreilles soient aussi attentives à ton message. Car tu veux nous parler. Tu veux nous enseigner. Car nous avons besoin d'être enseignés, d'être éclairés, d'être sondés. Que Dieu nous conduise dans tes voies. Combien, Seigneur, de fois nous nous égarons nous-mêmes dans nos idées, dans nos pensées. Nous pensons bien faire et nous faisons tout de travers. Nous avons besoin de ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité, Seigneur. Et que nous puissions serrer cette parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur. Donne-nous ainsi des oreilles attentives maintenant, afin que tu puisses agir. Car c'est lorsque nous obéissons que tu agis. Oh, que nous puissions réaliser tout cela, afin de toujours mieux te glorifier. Merci Seigneur. Inspire encore selon les besoins ce soir. Tu connais les besoins, inspire Seigneur, par le Saint-Esprit qui vit en nous et qui est au milieu de nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes toujours émerveillés par ce que Dieu fait. Il est surprenant dans toutes ses voies. Et nous pouvons dire que le Seigneur est vraiment plein de compassion. Ne doutons jamais, jamais de sa compassion. Alléluia. Même quand les choses ne vont pas comme nous le pensons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour ce soir, j'aimerais vous donner quelques paroles d'exhortation que tout chrétien a besoin. Le thème des réunions à Saint-Jérôme était « Comment être renouvelé dans la vie de l'Esprit ?» Et tout chrétien a besoin d'être renouvelé dans ces temps de la fin, car c'est dans la mesure où nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous pourrons persévérer fidèlement jusqu'au bout. Sans être remplis du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas accomplir ce que tu attends de nous. Et nous ne pourrons pas persévérer comme il le voudrait. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour chacun d'entre nous. J'ai donc apporté plusieurs messages, mais je vais en apporter un autre ce soir, que nous allons trouver dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et là, au chapitre 5, Il nous donne clairement des pensées précises pour savoir comment rester rempli de l'esprit. Comment demeurer toujours dans ce renouvellement de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Éphésiens, chapitre 5, on peut lire à partir du verset 15, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. S'ils étaient mauvais du temps du Seigneur, ils le sont encore plus aujourd'hui. Encore plus, car les jours sont mauvais. Et parce que les jours sont mauvais, il faut faire quelque chose. Dieu attend de nous quelque chose. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Voyez où il y a là cette pensée centrale. Soyez remplis de l'Esprit. Comment donc rester remplis de l'Esprit? Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Il y a dans ces quelques versets des paroles extrêmement importantes pour chacun d'entre nous. Et quant au passage où il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Il y a une certaine version qui dit « Et buvez à long trait à la coupe de l'Esprit ». Buvez à long trait à la coupe de l'Esprit. Il est donc question ici de coupe. Et je vais vous donner plusieurs coupes pour vous permettre de rester rempli de l'Esprit. Je ne vous dis pas le chiffre parce que des fois je ne sais pas jusqu'où je vais. Mais on va commencer déjà par avoir la première coupe et nous allons voir comment faire pour boire à long trait à la coupe de l'Esprit afin de rester rempli de l'Esprit. Ce n'est pas suffisant d'avoir fait une expérience même magnifique il y a quelques années en arrière. Mais si vous êtes complètement vide aujourd'hui, à quoi cela vous a servi? La volonté de Dieu, c'est que nous le soyons continuellement. C'est continuellement, c'est pas seulement une expérience glorieuse d'un baptême dans le Saint-Esprit il y a des années en arrière. Être complètement sec aujourd'hui, et malheureusement il y a beaucoup de chrétiens comme cela, qui des années en arrière ont fait de belles expériences. D'ailleurs, quand ils parlent de leur vie chrétienne, c'est toujours au passé. Toujours au passé. Ah frère, c'est vrai, il y a 20 ans en arrière. C'était merveilleux. Il y a 30 ans en arrière, au début, je m'en souviens. Oh, on a fait des expériences extraordinaires. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. On n'a pas su garder ce que Dieu nous a donné. Et on se dit, ah bon, ben, j'attends encore que Dieu agisse. Et on oublie que nous avons toujours notre part à faire. Et la première coupe, c'est la coupe de la responsabilité personnelle. Vous pouvez noter autour de la coupe, responsabilité personnelle. C'est la première coupe. Pourquoi je vous dis cela ? nous trouvons cette première coupe dans justement l'expression « soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Nous voyons mieux cette responsabilité personnelle dans le texte grec. Le texte grec veut dire « soyez continuellement remplis de l'Esprit ». C'est un ordre. Ah bon ? Un ordre ? C'est un ordre. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Le passage ici en question met la responsabilité pour être rempli du Saint-Esprit sur vous. Ah bon ? Ah bon ? Moi j'attends toujours que... Naturellement, les Éphésiens avaient déjà été baptisés dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? On le voit dans les Actes des Apôtres. Mais maintenant, ils étaient vides. Ils étaient remplis de vide. Beaucoup de chrétiens sont remplis de vide. Et l'apôtre dit ici, voyant la situation, comme pour dire, « Hé, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que vous attendez ?» Soyez, Dieu nous a donné les moyens pour rester remplis de l'Esprit. Vous avez une responsabilité personnelle. C'est un ordre. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, c'est votre faute. Ah bon, j'ai cru que c'était moi. On met toujours la faute sur le Seigneur ou la faute sur le prédicateur ou la faute sur quelqu'un. Mais Dieu vous dit ce soir, si tu n'es pas rempli de l'Esprit, c'est de ta faute. Ah bon ? Vous me secouez déjà. Comme on dit ici, vous me brassez un petit peu. Si le Seigneur vous brasse un petit peu, c'est pas mal. C'est toujours pour votre bien. Première coupe, mes amis, écoutez-moi bien, c'est très important. Il y a un ordre. Vous avez une responsabilité personnelle. Êtes-vous prêt à obéir à cet ordre et cesser de dire « Seigneur, fais quelque chose » alors que le Seigneur te dit « C'est à toi d'agir maintenant. » Si tu fais ta part, moi je ferai toujours la mienne. Et que signifie être rempli du Saint-Esprit ? Là aussi on se fait un peu des idées bizarres. Nous allons voir ce que ça veut dire. C'est tout simple. Donc, première responsabilité, première coupe, votre responsabilité personnelle. Voulez-vous accepter cette responsabilité ? On vit un siècle où on n'est plus jamais responsable, c'est toujours les autres. Avec cette fameuse psychologie qui pénètre même dans beaucoup d'églises et qui rend les chrétiens victimes, on est toujours des victimes. Mais les responsables, c'est toujours les autres. Ce n'est pas de ma faute. C'est toujours les autres. Ça, ce n'est pas un langage biblique. Avec Dieu, quand quelque chose ne va pas, on est toujours les premiers responsables. Amen. Il faut déjà commencer à mettre ces choses au clair. Sinon, jamais vous ne serez remplis du Saint-Esprit ou jamais vous ne le demeurerez. Tu es responsable. Oh là là, je suis responsable. Donc si je suis responsable, je dois faire quelque chose. En effet, tu dois faire quelque chose. Trop de chrétiens attendent. Ils vivent dans des salles d'attente, continuellement. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'attends. C'est les chrétiens salles d'attente. Ils attendent. Et comme ils attendent souvent, ben, ils sont là, devant la télé, ils regardent. Qu'est-ce que tu attends ici ? Ah ben, j'attends. J'attends que le Seigneur me visite. Mais tu peux attendre longtemps. Nous ne sommes pas des automates. Vous avez une responsabilité. Amen. Dieu nous responsabilise, mes chers amis. Les excuses, il faut que ça tombe. Et tant que vous avez des excuses pour dire « Ah oui, mais vous comprenez ?»« Non, je ne comprends pas. Mais vous ne comprenez pas. Si, je comprends. » C'est toi qui comprends pas. Il est temps que tu comprennes. Ah oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Il faut qu'on sorte de toutes ces choses, ces excuses, ces prétextes. Et on est champion pour cela, hein, pour trouver des prétextes, des excuses. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, c'est pas le moment, il fait trop chaud, il fait trop froid. Ma tante est là, ma grand-mère est partie, je dois aller là-bas, je fais ceci. On a toujours quelque chose. Oh, mais ça va pas actuellement à la maison, je peux pas. Mais toujours. Et pour ce qu'on veut, on a toujours le temps. Amen. Ah, pour ce qu'on veut, oh là là. Là, on passe 10 jours. Mais pour le Seigneur, 5 minutes, c'est déjà de trop. Oh, j'ai mal à la tête déjà. Oh, 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 oh. Doucement, doucement, doucement. Oui, il ne faut pas qu'on nous secoue trop aujourd'hui. Oh. J'allais dire un mot marseillais de la France. Peu cher, peu cher. Mon pauvre. Voilà où on en est. On est devenu douillet. Oh non, faut pas. Faut pas me brasser, il faut un peu. Le Seigneur nous brasse des fois. Et on en a besoin. Sinon, on s'endort. D'ailleurs, je ne vous ai pas lu le passage avant. Juste un peu au verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous voyez comme il nous brasse, là, le Seigneur. Je ne vous ai pas lu parce que... Parce que je le lis maintenant, mais... C'est pour cela qu'il est dit. Qu'est-ce qu'il est dit? Réveille-toi, toi qui dors. J'osais pas vous le dire. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Moi, j'osais pas vous le dire, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous m'en voudrez pas. Ceci pour dire, mes amis, que tout commence par là. Tant que nous ne prenons pas le taureau par les cornes, tant que nous sommes satisfaits de nous-mêmes, et tant que nous mettons toujours la faute sur l'un, sur l'autre, et tant que nous trouverons encore des excuses, nous n'en sortirons pas. Nous ne serons pas vraiment renouvelés. Un jour on est béni, le lendemain il n'y a plus rien du tout. Combien de chrétiens, aujourd'hui ça va, c'est formidable. Vous les voyez la semaine prochaine, il n'y a plus rien du tout, ils sont au fond du trou. Mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, on a l'impression qu'ils vont décrocher le ciel. La semaine d'après, il n'y a plus rien du tout, ils sont en enfer. Il faut que ça finisse tous ces voyages. Ben dis donc, vous en faites des voyages, voilà pourquoi vous êtes fatigué. Il faut enfin en arriver à dire, mes frères et sœurs, maintenant il faut que ça cesse. Et ne pas tomber dans un ronron, vous voyez. On a parlé de réveille-toi, toi qui dors. Et nous pouvons facilement tomber dans un petit ronron et nous endormir comme cela. Nous devons veiller, responsabilité personnelle. Si tu ne prends pas de décision ce soir, de dire, à partir de maintenant, je prends la décision de vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Je veux être renouvelé dans la vie de l'Esprit. Je veux faire ce que Dieu me demande. Il y a des décisions que vous devez prendre. Malheureusement, il y en a qui prennent la décision de ne rien décider. Ah oui. Ah, ils ont pris des décisions. Mais la décision de ne rien décider. Si vous ne faites rien, c'est que vous avez déjà pris une décision. Statu quo. Ah bon? T'as déjà décidé? T'as décidé de ne rien décider. Il faut te décider pour que quelque chose change. Amen.
Amen.
Mes amis, c'est important. Sinon, les années passent, et on est là, toujours un peu, les mêmes attitudes, le même langage, pas d'épanouissement, rien du tout, et on n'avance pas. Et avec le Seigneur, si on n'avance pas, on recule. Si on ne progresse pas avec le Seigneur, on recule. Il faut admettre cela, une responsabilité personnelle, une prise de conscience, dire maintenant ça suffit. J'ai dû passer moi-même plusieurs fois par cette prise de conscience. Je me souviens lorsque nous étions missionnaires en Afrique, dans les années 65 à 70, nous étions encore tout jeunes à ce moment-là, et là, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. J'ai vu que ma vie n'aboutissait à pas grand-chose. J'étais missionnaire. On était missionnaire, et puis voilà. Et à un moment donné, j'ai dit à Dorothée, il faut que quelque chose change. On ne peut pas rester comme cela. Il faut maintenant payer le prix. Les années passent, et je ne vais pas rester passer ma vie à un peu comme ça. Et là, des décisions sérieuses ont été prises, et qui, j'en suis sûr, ont été au début de notre ministère pour les nations. Là, j'ai dit à Dorothée, on va prendre un temps de mise à part. Je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus rester comme cela. En moi, il y avait cette soif intense. Il faut que quelque chose change. Et pourtant, j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais tout cela. Mais je voyais qu'il y a quelque chose qui n'aboutissait pas. Il me fallait vraiment un renouvellement. Et là, j'ai passé plusieurs jours dans le jeûne et la prière. Et avec Dorothée, nous avons prié chaque jour. Et là, je vous assure, à un moment donné, je pouvais dire, et c'est la seule fois que j'ai pu le dire au Seigneur, « Je t'ai cherché de tout mon cœur. » Si une fois dans ma vie, j'ai pu dire au Seigneur que je l'ai cherché de tout mon cœur, c'était à ce moment-là. De tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose. Et j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Amen. Ça a été un jeûne de plusieurs jours. Je n'ai pas besoin de vous dire le nombre de jours, mais c'était plusieurs jours. Mais j'ai pu dire, Seigneur, je t'ai cherché de tout mon cœur. Je n'ai pas tout de suite vu les résultats, tout de suite. J'étais comme un petit peu déçu aussi. Comme un peu une déception au fond de moi-même. Après tout ce temps de mise à part, je n'ai pas vu grand-chose, mais j'ai fait confiance. Et je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose de profond en moi, en nous. Et lorsque nous sommes rentrés d'Afrique, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous a ouvert des portes un peu de partout. Et c'est cela qui nous a permis de faire des brèches dans notre ministère et d'accomplir ce que le Seigneur avait en réserve pour nous. Et je vous assure, c'est cela qui nous a permis de faire ce que Dieu nous demande et me demande. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque quelqu'un est vraiment livré entre les mains du Seigneur, que vous soyez faible, que vous soyez balbutiant, que vous ne sachiez pas parler, cela n'a aucune importance. Que vous soyez pauvre, vous n'ayez pas beaucoup de connaissances. Dieu ne s'arrête pas à cela. Quand je vois qui j'étais, un garçon timide, un garçon renfermé, et ceux qui m'ont connu il y a 40 ans en arrière et qui me verraient aujourd'hui, ils se diraient, mais c'est plus le même. Et pourtant, je suis toujours le même. Mais là, quelque chose s'est passé. Je vous dis cela pourquoi, mes amis ? Pour vous montrer que quand on prend des décisions sérieuses, là on tourne en tout le temps, on tourne en rond, on se décide de faire quelque chose, mais finalement on ne prend jamais vraiment la décision. Et on tourne en rond. À un moment donné, il y a comme une crise. Il faut aller jusqu'au bout. Et ensuite persévérer. Et vous verrez, le Seigneur est fidèle. Tôt ou tard, sa main sera sur vous. Et il vous utilisera pour sa gloire. Amen. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes décidés. Décidés. Responsabilité personnelle. Il faut que vous vous sentiez concerné. Dire maintenant, il faut que ça change. En êtes-vous là? Même s'il fallait mourir, il faut que j'aille jusqu'au bout avec le Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il commence à se passer quelque chose. Deuxième coupe, je vais quand même vous en donner quelques-unes, pour que vous puissiez bien boire. Deuxième coupe, c'est la coupe de la consécration ou de la reconsécration. Nous trouvons cela au verset 15 qu'on vient de lire. « Prenez donc garde à vous-même afin de
vous conduire avec circonspection, comme, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est comme si l'apôtre voulait dire maintenant que vous avez pris la décision, c'est le moment de vous consacrer ou de vous reconsacrer. Parce que la consécration se fait une fois dans sa vie, mais elle doit être continuellement renouvelée. Et quand on dit consacrer, racheter le temps, il est temps de s'éveiller, de se réveiller, de ne plus vivre comme des insensés. C'est comme si l'apôtre disait, mais allez, réveillez-vous et consacrez-vous entièrement. L'offrande, le feu ne descend que lorsque l'offrande est sur l'autel. Nous, on veut que le feu descende, mais il n'y a pas d'offrande sur l'autel. L'autel est vide. Comment voulez-vous que le feu descende s'il n'y a pas d'offrande sur l'autel? Si votre vie n'est pas offerte comme une offrande devant le Seigneur, comment voulez-vous que le feu descende? Et l'offrande doit être totale. On n'est pas parfait, mais tout doit se faire totalement, sincèrement, réellement. Amen.
Amen.
Consacrer, reconsacrer, voilà la deuxième coupe. Où en êtes-vous? Êtes-vous vraiment consacré? Votre corps est-il entièrement consacré? Vos yeux, vos oreilles, votre bouche, vos mains, votre corps est-il consacré au Seigneur? Pouvez-vous dire que désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tout ce que je suis appartient au Seigneur. Vous savez, le salut, ce n'est pas seulement Jésus m'a sauvé. Ça, c'est la première étape indispensable. Je suis d'accord avec vous. Mais là où le sang a passé dans l'ancienne alliance, dans les sacrifices, là où le sang a passé, ce sacrifice appartient à l'Éternel. Tout ce qui est racheté appartient à Dieu. Autrement dit, vous, moi qui suis racheté par le sang de Jésus, je ne suis pas racheté pour vivre comme je veux. Je suis racheté pour vivre pour le Seigneur. Avons-nous bien saisi cela? Mais des multitudes de chrétiens se disent sauvés, mais ils vivent encore pour eux-mêmes. Ils font encore ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent, ils regardent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps, et ils sont étonnés de ce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Consécration, reconsécration. Avez-vous fait une fois cet acte? Me voici, Seigneur, je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens à celui qui est mort et ressuscité pour moi. 2 Corinthiens 14, 15, n'est-ce pas vrai? Un passage merveilleux. Il est mort pour nous parce que tous sont morts. Si tous sont morts, il doit vivre pour ceux, pour celui qui est mort et ressuscité. Ils n'appartiennent pas à eux-mêmes, ils appartiennent à celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, en tant que chrétien, si vous êtes racheté, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Avez-vous compris cela? Comprenons-nous cela? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre corps. Chaque membre de votre corps doit être consacré au Seigneur. Pas seulement votre âme. Et tout le reste, on fait ce qu'on veut. Deuxième coupe, reconsécration. Ne soyons pas comme des insensés. Les jours sont mauvais. Il est temps de se donner et de se redonner au Seigneur. Voulez-vous le faire? Sincèrement, réellement, définitivement et journellement jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia! Ma vie ne m'appartient pas. Paul disait, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. À celui qui s'est livré pour nous, comment ne pas nous livrer à lui? À celui qui a tout donné pour nous, comment ne pas nous donner entièrement? À celui qui a tout donné, comment donner si peu au Seigneur? À celui qui a tout donné, vous croyez que la relation est bien juste là? À celui qui a tout donné, donner si peu, vous croyez que ça marche? Vous croyez que le Seigneur est satisfait avec cela? Non. Au don total de Jésus, il faut un don total de nous-mêmes. Rien moins que cela ne pourra le satisfaire, et rien moins que cela ne pourra vous satisfaire. Tant que vous ne faites pas cela, vous serez insatisfait. Une fois en haut, une fois en bas, victoire, échec, et tous les problèmes. Deuxième coupe, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Troisième coupe, nous allons la trouver avec le verset 18, en suivant, « Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. » La troisième coupe que le Seigneur veut remplir, c'est la coupe de la sanctification. La sanctification. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Autrement dit, le Seigneur veut nous dire maintenant, ta vie, tu dois la consacrer au Seigneur et ne plus jouer avec le péché, sous quelque forme que ce soit. On l'a vu à Saint Jérôme, le Saint-Esprit est un esprit saint. Ne l'oublions pas. Combien de fois nous parlons du Saint-Esprit? Et même maintenant, nous avons tendance à parler de l'Esprit sans parler du Saint-Esprit. C'est très dangereux. Quand on parle de l'Esprit, vous voyez, c'est un peu, presque un courant d'air, hein, une force, un vent. Et puis avec un Esprit, on peut faire un peu n'importe quoi. Mais la Bible nous dit que c'est un Saint-Esprit. Alors là, tout change. Ma relation avec l'Esprit. Amen. Tout change. Et la Bible appelle l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit. Et si je veux être rempli, renouvelé, débordant de l'Esprit, je dois réaliser que celui qui me remplit, qui veut me remplir jusqu'à déborder, est saint. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est saint. Celui qui vous appelait est saint, soyez donc saint. C'est l'apôtre Pierre qui dit cela. Celui qui vous appelait est saint, soyez donc saint dans toute votre conduite. Et le mot saint veut dire séparé pour Dieu. Ça veut dire haïr le péché, se séparer du péché, se consacrer à Dieu, être rempli de l'Esprit et servir le Seigneur. Il y a tout cela dans le mot consacré, dans le mot sanctifié. Il y a tout cela. La troisième coupe, la sanctification. L'Esprit de Dieu en nous est un Esprit Saint. C'est pourquoi vous ne devez jamais jouer avec le péché, mes frères et sœurs. Il y a trop de chrétiens qui s'amusent un peu avec le péché. Oh, plus rien, Dieu pardonnera. On est sous la grâce. Il y a des chrétiens qui jouent avec cela. On est sous la grâce. De toute façon, Dieu me pardonnera. C'est comme ça que tu as compris la grâce. Eh bien, tu as besoin de revoir ta copie. Parce que la vraie grâce divine nous enseigne à renoncer au péché, aux convoitises mondaines. Et à nous donner au Seigneur. Voilà ce que nous enseigne la vraie grâce de Dieu. Non pas à couvrir le péché, mais à haïr notre péché, à nous en détourner pour lui appartenir entièrement. Ne jouez jamais avec le péché. Il n'y a rien de tel pour éteindre le feu de l'Esprit en vous. Il n'y a rien de tel. Il ne faut pas s'étonner si vous ne pouvez pas être renouvelé, si le feu s'éteint en vous, si il y a un péché que vous caressez et que vous ne voulez pas abandonner. Alors, l'Esprit Saint qui est en vous est attristé. Il ne peut pas vous donner cette joie profonde parce qu'il est attristé. C'est comme s'il vous disait,
L'Esprit de Dieu est saint. Tu dois être saint aussi. Et il veut te communiquer des habitudes saintes, un caractère saint, un langage saint, un regard saint, des paroles saintes. Si nous sommes remplis de l'Esprit saint, nous vivrons saintement. Si nous n'avons pas, si nous ne vivons pas saintement dans la pureté, nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. C'est un mensonge. Si nous sommes vraiment remplis de l'Esprit, le caractère de l'Esprit divin pénètre au plus profond de nous-mêmes, tout notre être. Respire la pureté et va dans cette direction de rechercher la perfection avec Dieu. On n'est pas encore parfait, mais on avance vers la perfection. On sera parfait lorsque nous serons avec le Seigneur. Mais nous devons tendre à cette perfection. Avez-vous ce désir? Y a-t-il ce désir, des désirs saints en vous? Ou est-ce que ça vous intéresse pas? La sainteté, la sanctification. Beaucoup de chrétiens, ça ne les intéresse pas. Bénédiction, oui. Guérison. Tout cela, ça les intéresse. Mais sanctification, consécration, ne connaissent pas. Non, non. Ça, c'est pour le pasteur, c'est lui qui doit se consacrer. C'est pour lui, les missionnaires. Ceux qui sont dans le ministère. Moi, pas pour moi. Ouais. C'est pas pour toi. Si c'est pas pour toi, tu ne seras pas non plus. Tu n'auras pas aussi l'onction du Saint-Esprit. Tu n'auras pas aussi la force du Saint-Esprit. Tu n'auras pas aussi le renouvellement de l'Esprit. Tu n'en veux pas. Tout le reste, tu n'auras rien du tout. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc là, le Seigneur veut dire, l'apôtre veut dire, attention, on ne peut pas jouer avec le péché. Il faut une coupure définitive. Et ne pas penser que parce que Dieu nous aime, que sa grâce pardonnera toujours. Si vous jouez avec la grâce de Dieu, laissez-moi dire une chose, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Et si vous continuez longtemps dans ce jeu-là, vous prouvez une chose, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'est la grâce de Dieu. Il faut même se poser la question si vous êtes vraiment sauvé. Parce que quelqu'un qui a compris la grâce de Dieu, combien Dieu lui a pardonné, combien son péché a fait souffrir le Maître. C'est ton péché, mon péché, qui a crucifié le Maître. Comment peux-tu encore après courir après ton péché, commettre le péché, sans déshonorer ton Sauveur et sans attrister l'Esprit de Dieu en toi? On en a à quelle coupe? Quatrième coupe. Allons un peu plus loin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Ici, vous pouvez trouver avec moi le nom de cette coupe. Les psaumes, c'est quoi? C'est dans la parole de... C'est donc la parole de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes. C'est la parole de Dieu. Quatrième coupe, parole de Dieu. Si tu veux être rempli, si tu veux être renouvelé, dans la vie de l'esprit, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Colossiens 3:16, il y a à peu près le même passage qui dit « Que la parole de Dieu habite dans vos cœurs abondamment. » Abondamment. Et plus quelqu'un, un chrétien, est rempli de cette parole, plus il sera rempli du Saint-Esprit. Car Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie. » Et les psaumes, la parole de Dieu, c'est elle qui répond à beaucoup de nos problèmes, qui résout beaucoup de nos problèmes. Que de chrétiens sont dans la confusion, ont des problèmes insolubles. S'ils étaient un peu plus remplis de la parole de Dieu, beaucoup de leurs problèmes seraient résolus automatiquement. Au lieu de toujours frapper à la porte de l'un ou de l'autre pour chercher une solution, la solution est là. Mais on ne veut pas se casser la tête. On ne veut pas se fatiguer. C'est les autres qui doivent se fatiguer pour nous. Nourris-toi de la parole. Médite-la. Mais très peu maintenant de chrétiens méditent la parole de Dieu. C'est une tragédie. Une tragédie. L'étude de la parole est bien souvent le moment où les chrétiens, ça ne les intéresse pas. L'étude biblique, c'est un très mauvais signe quand il en est ainsi. C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence, qui nous montre où nous en sommes, qui nous parle, qui nous sonde, qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous corrige, qui nous avertit.
Et plus nous sommes remplis de cette parole, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole. Amen.
Amen.
C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole. Et plus vous êtes remplis de cette parole, plus vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu.
Amen.
C'est capital. Et tout le monde peut lire la parole de Dieu. Tout le monde peut la méditer. Malheureusement, nous sommes bien souvent paresseux de ce côté-là. On a le temps de lire autre chose, mais on n'a pas le temps de méditer la parole. Et c'est pourquoi nos pensées sont pleines de pensées du monde, ou des pensées de confusion, et on ne sait pas où on en est. Mon frère, ma sœur, médite davantage la parole. Tu es dans une confusion actuelle. L'Esprit de Dieu qui est en toi veut te conduire à lire la parole, à méditer la parole. Il y a la réponse à ce que tu recherches. Ne va pas boire aux citernes crevassées de la sagesse humaine, mais viens boire à la source d'eau vive, de la parole pure, éternelle de Dieu, alléluia, qui rafraîchit, qui renouvelle, qui sanctifie. Entretenez-vous par des psaumes. La parole, les psaumes, quand on voit les psaumes de David et tous les des autres, tous ces psaumes étaient chantés, et que de fois, que de situations dans les psaumes, diverses. Et il y a toujours une solution. Si nous méditons tout cela, cela veut dire que la parole a une réponse à chacune de nos circonstances. Dans la solitude, la tristesse, la dépression, l'isolement, le péché même quand on a commis. David, il a trouvé la réponse dans la parole. Et nous aussi, nous trouverons une réponse. Sûre, certaine, il n'y aura pas besoin de revenir. La sagesse humaine ne délivre personne, ne va jamais à la racine du mal. Mais la parole de Dieu va toujours à la racine du mal. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas aller à la racine. Ça dérange trop, ça secoue trop, ça brasse trop, comme vous dites. Et ça, on n'en veut pas. Mais il faut aller à la racine. Et c'est quand on va à la racine qu'on trouve une réponse profonde et définitive. Amen.
Amen.
On va un peu plus loin, je vous donne encore quelques autres coupes. Vous avez soif ?
Amen.
Entretenez-vous par des psaumes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Par des psaumes, oui, voilà, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantant et célébrant. Ah, voilà maintenant. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors ici, on peut dire, la coupe, c'est la coupe de la louange. Mais la louange ici, comment elle s'exprime ? Il y a deux mots importants. Un mot avant et un mot après la louange. Le mot avant, c'est de tout votre cœur. Et le mot après, c'est louange du
Seigneur.
Attention, c'est important. C'est pas louer pour louer comme ça. Et on sait même pas ce qu'on fait. Tout le monde le fait, on loue, on loue. Attention, c'est pas comme ça. La vraie louange qui nous renouvelle, qui nous donne de rester remplis, pas seulement pendant la réunion, mais aussi après la réunion. À entendre certains chrétiens, à voir certains chrétiens, après la réunion, on dirait qu'il n'y a plus rien du tout. On dirait que ça tombe dans un trou quelque part. Il y a un trou quelque part. À peine sorti de l'église, il n'y a plus rien du tout. Allez, il faut de nouveau tout de suite la prochaine réunion pour essayer de remplir ça. Mais il y a un trou quelque part. Si ce n'est plusieurs trous. Alors il y a deux conditions pour une louange qui est vraiment agréable à Dieu et qui vous permet de rester rempli du Saint-Esprit et de déborder. Car quelqu'un, comment savoir si quelqu'un est vraiment rempli ? C'est quand il déborde. Comment savoir qu'une coupe est remplie ? Quand elle déborde. Si vous ne débordez pas, c'est que vous n'êtes pas rempli. Et le débordement, c'est quoi ? C'est pour les autres, le débordement. C'est pas pour vous, quand ça déborde. C'est ta coupe qui déborde, mais après le reste, ça part. Donc c'est aussi pour les autres. Une vie qui n'est pas... Une bénédiction aux autres prouve par là que vous n'êtes pas vraiment rempli du Saint-Esprit, ni débordant. Alors les deux, il faut que je vous donne... Il ne faut pas que j'aille trop loin, mais il faut que je vous donne les deux mots avant et après. Comment on a dit ? Entretenant... Ah, attendez. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Voilà, soulignez bien tout votre cœur, là. Alors, le premier mot important, tout votre cœur, ça vous rappelle quoi? Vous devez louer avec amour. Avec amour. Il faut que cette relation dans la louange soit une relation d'amour avec le Seigneur. Quelque chose au plus profond de vous-même. Parce que vous aimez le Seigneur, pas parce que vous devez le faire. Non pas par intérêt, pour être béni. Je vais louer le Seigneur parce qu'après je me sentirai bien. Ah bon, c'est pour ça que tu loues le Seigneur? Ben, t'es complètement à côté de la course. Ah bon? Moi j'ai cru que je... Non, il ne faut pas dire ça, monsieur. Non, 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 c'est pas pour être bien qu'on loue le Seigneur. Ça, c'est une conséquence. Plus tard. Mais avant tout, c'est pourquoi? C'est parce qu'on l'aime. Et la louange, lorsqu'elle vient d'un cœur qui aime, alors tout change. On n'a pas besoin de vous forcer. Ça jaillit du fond de votre cœur. Alléluia! C'est une relation d'amour. Et dans les derniers temps, vous savez, avec Laodicée, ce que j'ai contre toi, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et pourtant, il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient à Laodicée. Ou à Éphèse. À Éphèse. Et pourtant, il manquait l'essentiel. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mes amis. Mais si tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas fait d'abord parce qu'on aime le Seigneur, alors, il n'y aura aucun renouvellement. L'Esprit de Dieu en vous ne sera pas satisfait. Parce que l'Esprit de Dieu, le but de l'Esprit de Dieu, c'est de vous faire aimer le Seigneur. Il est là pour ça. Pour vous faire aimer le Seigneur, qui est si merveilleux, qui a tant fait pour vous. Il est là pour ça, il vous remplit, pour que votre amour pour lui soit grand. Quand c'est une relation d'amour, la louange, elle coule toute seule. Vous êtes d'accord avec moi? Ça coule toute seule. La louange, quand elle est faite du fond du cœur, spontanément, de tout votre cœur, soulignez bien cela dans votre Bible. Ce n'est pas du bout des lèvres, mais de tout votre cœur. Pouvez-vous dire que vous louez le Seigneur de tout votre cœur? Pouvez-vous le dire? Ou est-ce que c'est par habitude? Et alors, d'abord par amour, nous louons. Mais une fois qu'on l'a loué par amour, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas en rester là. Nous avons tendance tous à rester à cet amour. Seigneur, je t'aime, alléluia. On en reste là. Non, non, ça va plus loin. La louange, quand elle est inspirée par amour, va plus loin que cela. Le Seigneur, c'est quoi? C'est le Seigneur. Qu'est-ce que ce mot vous suggère? Les louanges du Seigneur. Le Seigneur, c'est quoi? C'est le Seigneur, c'est le Maître. Le mot clé ici, c'est l'obéissance. La vraie louange, inspirée par l'amour, nous conduit à obéir au Seigneur. Jean 14, 15, je lisais tout à l'heure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et à plusieurs reprises, il est dit dans Jean 14, plusieurs reprises, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, à plusieurs reprises, et mon Père l'aimera. Voyez-vous, aimer le Seigneur nous conduit à obéir au Seigneur. Donc notre louange, si elle n'aboutit pas dans cette déclaration, Seigneur, je t'aime, et parce que je t'aime, maintenant je veux t'obéir. Je veux mieux t'obéir. Je veux mieux me mettre à ta disposition, et non pas, Seigneur, je t'aime, un point, c'est tout. Sans obéissance, en restant toujours les mêmes, ça vous ne mènera nulle part. Le Seigneur attend que de cet amour découle une obéissance. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mes amis. Dire simplement, seulement je t'aime, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi dire, parce que je t'aime, Seigneur, je t'obéis. Comme tu me le demandes, selon ta parole. Là, vous allez jusqu'au bout. Alors là, votre louange sera agréable au Seigneur. Mais une louange simplement inspirée par l'amour, sans obéissance, déshonore le Seigneur. Le déshonore, c'est simplement sentimental. Il faut faire attention de ne pas vivre de sentiments. Les chrétiens sentimentaux, des émotions, c'est bien. Le Seigneur nous donne des émotions, mais il faut que ça aille plus loin. L'obéissance, la volonté. Les sentiments doivent toucher notre volonté aussi. Et dire maintenant, j'aime, J'ai des sentiments, mais j'obéis. J'agis, c'est ma volonté. On ne doit pas seulement rester au niveau des sentiments.
Alléluia.
Ah. Ouh, ouh, hi, ouh. Quand c'est fait de tout son cœur, ça va. Mais il faut que ça aille plus loin. Il faut que ça finisse par j'obéis. Je veux faire ta volonté. Lorsque tu me parles, je veux que ça change. Je veux obéir, Seigneur. Voilà la vraie louange. Alléluia. Inspiré par l'amour et qui se concrétise par l'obéissance. Vous prouvez au Seigneur que vous l'aimez parce que vous lui obéissez. Si vous n'obéissez pas, vous ne prouvez pas au Seigneur que vous l'aimez. Vous ne donnez aucune preuve. Je t'aime, tout le monde peut le dire ça. Mais j'obéis, tout le monde ne le dit pas. Alors un peu plus loin, on en a combien de coupes maintenant? Vous en avez assez ou quoi? Je vous en ai donné combien? Ah, c'est déjà pas mal. 5, allez, un sixième. Qu'est-ce qu'on voit après? Les louanges du Seigneur rendant continuellement grâce à Dieu, le Père, en toutes choses. Soulignez, rendez continuellement grâce. Il y a là une autre coupe, en effet. C'est la coupe de l'action de grâce. Et le mot rendre grâce ici, c'est pas le même que la louange. On pourrait penser que c'est la même chose. Non, non, non. Dans l'action de grâce, il y a quelque chose d'autre. Rendre grâce à Dieu, c'est le remercier pour les bénédictions que vous avez reçues. Et Dieu vous demande de ne pas oublier les bénédictions que vous avez reçues. Et cela, on l'oublie facilement. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, renouvelé dans l'Esprit, sera un chrétien reconnaissant. Pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et continuellement, il est dit ici continuellement. Pas dans le passé, mais chaque jour, continuellement. Et si vous êtes continuellement reconnaissant pour ce que Dieu fait dans votre vie, vous serez rempli du Saint-Esprit. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui disent toujours, encore. Et il y a ceux qui disent toujours, merci. Certains chrétiens, c'est toujours... Dès qu'ils prient, encore, Seigneur, ça va pas, je sais pas, il me faut ceci, il me faut ça. Toujours en démendiant. Encore, encore, encore. Et vous les voyez toujours en train de mendier. Et un mendiant n'est jamais satisfait. Avez-vous déjà vu un mendiant qui dit, maintenant ça va, je ne veux plus rien du tout, j'en ai l'air cerceau. Ça n'existe pas. Même s'il a bien, il a fait une belle journée la veille, là, il revient là. Et il fait le pauvre de nouveau. Alors qu'il a plein d'argent là-bas. Un mendiant n'est jamais satisfait. Si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que Dieu fait, vous devez prendre le temps d'être reconnaissant. On vit un temps où les gens manquent de reconnaissance, n'est-ce pas vrai? On est constamment dans des revendications continuelles. On n'est jamais satisfait. C'est l'esprit du monde, malheureusement, qui nous influence. Le monde, on comprend, ils n'ont pas le Seigneur qu'ils revendiquent. C'est le Seigneur qu'il leur faut, mais comme ils ne l'ont pas, alors ils attendent autre chose. Mais le chrétien, il ne doit pas se laisser influencer par l'esprit du monde. Lui, il ne dit pas encore. Le chrétien rempli du Saint-Esprit dit merci. Êtes-vous de ceux-là qui continuellement discernent ce que le Seigneur a fait dans leur vie, et ils disent merci. Ils sont reconnaissants pour tout. C'est merveilleux cela. Voir la main du Seigneur, les bénédictions, et lui dire merci. Dieu vous a béni de tant de manières. Où sont les merci? Il vous bénit chaque jour. Où sont les merci? Voilà pourquoi vous n'êtes pas renouvelé dans la vie de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous veut vous faire dire merci au Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Et nous avons tous tendance à oublier cela, n'est-ce pas vrai? La coupe de l'action de grâce, soyez reconnaissant. Reconnaissant. Soyez un chrétien, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Pour la moindre chose que Dieu nous donne, merci Seigneur. C'est merveilleux. Et l'Esprit de Dieu sera content en vous. Ah oui, c'est ça, dis merci. Pourquoi? Parce que ton Père Céleste prend soin de toi. Ce qu'il a fait dans le passé ou maintenant, il le fera encore. Il est le même, il ne change pas. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Sois reconnaissant. Voilà le chrétien rempli de l'esprit. Voilà comment Paul exhortait les premiers chrétiens. Comment il les aidait à rester remplis de l'esprit. Mais il y a des chrétiens qui ne respectent tout le temps. Dès qu'ils ouvrent leur bouche. Vous savez que... Ferme tout de suite, ferme. Parce que quand ils commencent ça, on ne sait plus où ils vont s'arrêter. À certains, vous n'osez pas dire comment ça va. J'ai remarqué avec certains, quand vous dites, comment ça va frère? Ouh là là, vous en avez pour une heure. Oh, c'est moi, ça va pas. Là-bas, mon travail, ça va pas. Là-bas, ça va pas. Oh, pendant une heure. J'ai dit, oh, ça va. Bon, ça va, calme-toi un peu. Et voilà pourquoi on est là, continuellement insatisfait. On perd toutes les bénédictions. Amen. On ne peut pas garder ce que Dieu nous donne. On n'est pas rempli de l'esprit. Rendez continuellement, il est dit. Soyez continuellement reconnaissants, mes amis. Dieu ne vous a pas abandonné. C'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui sommes ingrats. Ce n'est pas lui qui ferme le ciel. Comme nous le pensons souvent. Pourquoi Dieu? C'est lui qui vous pose la question. Pourquoi tu te tais? J'ai tant fait pour toi. Pourquoi tu te tais? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Regarde tout ce que j'ai fait dans ta vie. Prenez le temps d'examiner tout ce que Dieu fait dans votre vie, mes amis. Et vous n'aurez plus le temps pour rouspéter, pour vous plaindre. Toujours, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. On n'est pas encore au ciel, je sais, il y a des problèmes. Qui n'en a pas? Mais vous avez le Seigneur. Amen. Et si vous dites que vous avez le Seigneur, il vous a béni de tant de manières. Amen. N'oubliez pas ses bienfaits. Ne ressemblons pas à ceux du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Entendre certains chrétiens, on se demande si c'est un chrétien. T'es chrétien, toi? Non, on ne voit pas grand-chose. Hein. Il y en a qui se plaignent, mais encore plus que les païens, même. Encore pire! Êtes-vous cette personne, quand on vous dit comment ça va, vous commencez un peu à tout déballer? Ou êtes-vous reconnaissant? C'est merveilleux de voir un chrétien reconnaissant. C'est un renouvellement. C'est un rafraîchissement spirituel. Ah! On est content d'entendre un chrétien comme cela. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez faire beaucoup de bien simplement par votre esprit de reconnaissance. Bon, ça fait combien que je vous en ai donné? 6. Je vais vous en donner un 7e, on ne peut pas partir à quel chiffre 6. Le chiffre 7, c'est le chiffre divin. Sinon, il manquerait quelque chose. 7. Une dernière coupe. Hein, d'après vous, c'est laquelle? Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, vous soumettant les uns aux autres. Soulignez, soumettant. Et là, il y a une coupe. Merveilleuse. La soumission, c'est quoi? C'est la coupe du serviteur. Quand on se soumet les uns aux autres, c'est qu'on se sert les uns les autres. C'est pas un esclavage, c'est pas l'un qui domine l'autre, il n'est pas question de ça. Malheureusement, il y en a qui ont mal compris ça, ils dominent les autres. Tu dois être soumis, c'est écrit. C'est pas ça du tout, là. Soumettez-vous les uns les autres, c'est pas vous dominer les uns les autres. C'est pas celui qui a la voix la plus forte. Ou celui qui a plus de connaissances. D'abord, tu sais rien du tout, donc tais-toi. Moi, j'ai fait des études. On le domine comme ça. Non, il n'est pas du tout question de ça ici. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, ça veut dire, servez-vous mutuellement. Quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, je termine avec cela. Mes amis, Dieu ne nous remplit pas simplement pour nous-mêmes, pour dire, voilà, je suis rempli. Allez, c'est merveilleux. Non. Dieu nous bénit pour nous rendre en bénédiction. Et tant que vous n'êtes pas en bénédiction aux autres, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Vous ne débordez pas. Ne prétendez pas être rempli quand votre vie ne déborde pas sur les autres. Quand vous n'avez pas d'amour pour les autres. Quand vous ne voulez pas servir les autres. Quand vous n'avez pas à cœur de faire quelque chose pour aider, pour encourager, quand il n'y a rien de cela, vous n'êtes pas rempli de l'esprit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous soumettant les uns les autres, quand on est rempli, le service est un débordement. Ça se fait tout seul. Quand on est rempli du Seigneur, après ça déborde. Vous êtes d'accord avec moi? Ça déborde tellement qu'après, on veut faire du bien à l'un ou à l'autre. Ça se fait tout seul, naturellement. Naturellement. Le Seigneur est merveilleux, si tu savais. Ah, extraordinaire. Tu es rempli du Seigneur. Et rien que le fait que l'autre te voit rempli comme ça, de la bonté, de la fidélité, tout ça, la reconnaissance, l'autre est édifié. Et tu peux aussi faire beaucoup de bien. Ce que tu as vécu, tu dois le communiquer à l'autre. Tu es là pour servir. Le mot service dans la parole de Dieu, je veux dire le mot ministère plutôt, veut dire servir. Un ministère, c'est quelqu'un qui sert. Un ministère, c'est pas celui qui... Hein, il est là. Je suis là, hein, il faut bien me regarder. Ça, c'est zéro. Un ministère, c'est pas ça. C'est pas celui qu'on doit servir. Un ministère, c'est celui qui sert les autres.
Amen.
Ah oui. Un ministère, c'est quelqu'un qui sert les autres et non pas qui cherche à être servi. Avons-nous bien compris cela? Et plus vous servez, plus vous serez remplis de l'Esprit. Parce que plus on donne, plus Dieu nous donne. Plus vous donnez, plus Dieu vous donnera. Ça a été ma vie, ça a été notre vie. Nous n'avions pas grand-chose. J'avais 5 pains et 2 poissons, c'est pas grand-chose. Mais si on m'a dit avec 5 pains et 2 poissons, il y a eu la multiplication. Et j'ai vu qu'il multiplie ces 5 pains et 2 poissons.
Amen.
On est tous un peu comme ça avec ces 5 pains et 2 poissons, pas grand-chose. Un petit garçon, on est comme ce petit garçon-là. On n'a pas grand-chose, mais donnez, il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée, qui
déborde.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Comment rester rempli de l'Esprit? Vous le savez maintenant. Plus vous donnez, plus Dieu vous donnera. Vous serez étonné que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Les fleuves d'eau vive coulent. C'est pour les autres. Plus vous voulez être en bénédiction aux autres, plus Dieu vous remplira. Si vous n'avez pas cet désir d'aider les autres, de faire quelque chose pour les autres, vous ne serez jamais rempli du Saint-Esprit ou renouvelé. Si Dieu vous bénit, c'est toujours pour bénir les autres.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Prions quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces exhortations de ta parole. Nous voulons les considérer ce soir.
Amen.
Car les jours sont mauvais, comme le dit l'apôtre. Si c'était mauvais en son temps, combien plus forte raison maintenant? Ces jours sont encore plus mauvais. Seigneur, donne-nous d'être sérieux avec toi et avec ta parole.
Amen.
Et de ne pas être de ces auditeurs oublieux qui entendent mais qui ne mettent jamais en pratique.
C'est vrai.
Et tu as dit combien de fois prenez garde à la manière dont vous écoutez.
Oui.
Seigneur, nous voulons écouter, mais nous voulons aussi ouvrir. Nous voulons changer. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit.
Amen.
Nous voulons déborder.
Alléluia.
Et tu nous en as donné les moyens, les conditions, les possibilités, les outils, les dons. C'est merveilleux. Seigneur, que ces 7 coupes soient toujours là, que nous puissions nous y abreuver continuellement et déborder continuellement sur les autres. Pour la plus grande joie de ton Dieu. Pour ta plus grande joie et pour le bien d'un grand nombre.
Alléluia.
Amen.
Le Seigneur m'a donné quelques paroles prophétiques.
Gloire à ton nom, Seigneur.
Pour certaines personnes, en particulier au milieu de nous. Et le Seigneur a une parole d'encouragement toute particulière pour le pasteur ici, son épouse, leur ministère. Pendant la louange ici, pendant que notre sœur, son épouse, dirigeait la louange, le Seigneur m'a dit, je viens ce soir, je suis venu ce soir, encourager mon serviteur et ma servante. Voici ce qu'il m'a dit pour vous. Votre tâche est devenue un peu trop lourde. Un peu trop pesante. Je vous appelle à déléguer plus de tâches aux personnes que je placerai sur votre route. et que je vous indiquerai. Je vais ainsi multiplier le ministère que je vous ai donné, vous dit le Seigneur. Et j'ai placé autour de vous de nouveaux ouvriers que je prépare à travailler dans mon œuvre. C'est moi qui les prépare, dit le Seigneur, et je les mettrai sur votre route. D'autres ouvriers, dans la vie desquels je suis à l'œuvre, pour les qualifier davantage et les rendre plus efficaces. Ceux-là aussi, vous les reconnaîtrez. Et troisièmement, j'ai aussi choisi ici des ouvriers pour qu'ils travaillent sans bruit, pour un travail caché, mais néanmoins très important à mes yeux, et qui vous aidera beaucoup. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné ce verset. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée par tant de travail. Seigneur, merci. Le Seigneur voit dans le secret, il voit ce qui se passe et ce que les hommes ne voient pas. Et il vient ce soir vous encourager à aller de l'avant et à multiplier, le Seigneur veut multiplier ce qu'il vous a donné en mettant sur votre route de l'aide. Et il vous dit, c'est moi qui appelle et je peux vous assurer que celui que j'appelle, je le qualifie aussi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te prions de bénir ton serviteur, ta servante.
Alléluia.
De les fortifier, de les renouveler, de poser ta main rafraîchissante sur leur vie et qu'elles puissent porter encore plus de fruits. Merci pour ce que tu as déjà fait au travers d'eux et merci pour ce que tu feras encore. Parce que tu es le Dieu de la multiplication. Cinq pains, il a été dit, et deux poissons. C'est ce que vous avez, mais maintenant le Seigneur va commencer à multiplier ça. Pour sa gloire. Et pour votre rafraîchissement. Et votre soulagement aussi. Merci Seigneur. Et pour ceux que j'ai appelés ici, dit le Seigneur, à me servir, je voudrais trouver en vous, à ceux qui en appellent pour servir, je voudrais trouver en vous les qualités de vrais disciples. Un vrai disciple du Seigneur doit être l'ouvrier le plus respectueux et le plus loyal sur terre. Il doit avoir en lui la crainte de déplaire à son maître. Alléluia, Seigneur, que ces quelques paroles puissent porter du fruit dans les cœurs de ceux qui sont concernés ici par ces paroles. Merci Seigneur, tu connais chaque chose, chaque église, chaque besoin. Devant toi, il n'y a rien de caché, tout est à nu et à découvert devant toi. Et tu viens juste dire la bonne chose au bon moment pour aider, pour soulager, pour encourager, pour fortifier. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Et le Seigneur, maintenant, voudrait s'adresser à une personne qui est angoissée parce qu'il y a des problèmes dans sa vie de couple qui sont angoissantes. Et tu es parfois dans une crainte terrible à cause de ce qui se passe dans ton foyer. Et le Seigneur te dit, tu seras libéré de cette angoisse qui t'oppresse quand tu réaliseras que l'œil de ton Dieu est constamment sur toi. Et quand tu me feras vraiment confiance au sujet de ta situation, je voudrais te rendre attentive, que je garde dans une paix parfaite celui qui garde les yeux fixés sur moi. Et il en est ainsi pour toute personne qui se confie en moi. Sois rassurée ce soir. Sois rassurée, ma fille.
Je contrôle parfaitement ta situation. Rien, absolument rien, ne m'échappe. Je tiens les rênes de cette situation dans ma main. Et c'est moi qui conduis les choses. Mais toi, fixe les yeux sur ton maître. Et la sérénité, la paix envahira ton être tout entier. Et tu pourras aller de l'avant, sereine et confiante, sachant que j'ai le contrôle de ta situation. Alléluia. Seigneur, je te prie pour cette situation-là, ici présente. Seigneur, merci parce que tu es venu encourager cette dame. Merci, Seigneur, tu es celui qui s'est encouragé au bon moment. Et tu connais chacune de nos situations. Merci, Seigneur. Louange, puissance à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux. Et tu ne parles pas pour rien dire. Du tout. Une autre parole encourageante pour une personne qui se fait du souci quant à ses enfants. Et ça devient insupportable. Tu pries beaucoup pour tes enfants qui sont dans le monde, qui sont repartis dans le monde. Au fil du temps, tu as réalisé que tu étais incapable de leur donner un cœur nouveau. Mais moi, je te dis que je peux le faire. Et c'est moi seule qui suis capable de changer le cœur d'un homme. Toi, ce que je te demande, continue d'intercéder pour le salut de tes enfants. Ne te relâche pas. Ton Père Céleste prend plaisir à voir des parents intercéder pour leurs enfants. Tes enfants sont-ils encore loin de la bergerie? N'aie aucun repos. Prie, prie, et prie encore, jusqu'à ce qu'ils réalisent eux-mêmes leur état de perdition et que je puisse les réintroduire dans ma maison, te dit le Seigneur. Alléluia! Prie, prie, et prie encore. Alléluia, Seigneur. Nous ne voulons pas nous relâcher. Quand la situation devient difficile et incontrôlable pour nous, nous voulons alors te faire plus confiance et te dire, Seigneur, c'est toi aussi qui les tiens dans ta main et qui les garde là où ils sont. Nous te les remettons, Seigneur, là où ils sont. Tu agis et tu les convaincs toi-même de pécher et tu changes toi-même leur cœur. Seigneur, nous ne voulons pas être lassés du combat, nous ne voulons pas être lassés de l'intercession pour nos enfants. Nous voulons continuellement reprendre le flambeau et repartir de plus belle. Plus leur situation s'aggrave, plus il nous faut prier. Frères et sœurs, plus il nous faut prier pour tous ceux qui sont encore loin du Seigneur dans nos familles. Alléluia. Seigneur, merci. Maintenant, nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Et nous allons élever vers lui nos regards et nous attendre à lui. Parce que le Seigneur voudrait toucher quelques personnes au milieu de nous. Oh, le Seigneur étend sa main sur des articulations qui sont douloureuses. Oh, il y a du baume dans la main du Seigneur et il vient mettre son baume dans tes articulations douloureuse. Merci Seigneur de ce que tu mets ce baume dans ses articulations, de ce que tu touches cette personne. Merci dans ta compassion, tu guéris cette personne. Merci Seigneur, reçois ta guérison. Reçois-la et dis merci Seigneur. Merci, merci que cette douleur disparaisse. Parce que Jésus t'a touché. Jésus t'a touché. Alléluia. Reçois sa guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Il y a une personne qui souffre de crise d'angoisse. Tu as des angoisses la nuit. Des angoisses terribles. Tu es angoissé. Tu es une personne angoissée. Et le Seigneur vient maintenant. Ce soir. Ouvrir la porte de ta prison de l'angoisse et te faire sortir de cette prison. Tu es libre. Tu es libre parce que Jésus t'a fait sortir de cette prison. Ce soir, reçois cette libération. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que Tu es celui qui guérit et tu es celui qui libère. Louange à toi, Seigneur. Et la crainte de la mort s'en va. La crainte de la mort s'en va. Dans ce cœur angoissé, la crainte de la mort s'en va. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Et le Seigneur touche encore quelqu'un à un œil qui a un œil douloureux, qui s'infecte parfois. Et le Seigneur te dit, ne crains point. Mon œil est sur toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, merci de guérir cet œil. Seigneur, tu as touché les aveugles et tu les as guéris. Et ce soir, tu touches cet œil qui fait mal. Tu souffres, mais maintenant, le Seigneur t'a touché dans sa grâce. Reçois sa guérison. Et une dernière chose, le Seigneur touche encore quelqu'un à la glande thyroïde qui ne fonctionne pas bien. Il y a un problème avec ta glande thyroïde. Le Seigneur pose sa main sur toi, alors reçois aussi cette guérison, toi aussi. Alléluia. Toi qui l'appelles par ton nom, il t'appelle, il te pointe du doigt là, et il te dit c'est toi, oui c'est toi. Alléluia. Merci Seigneur, loué sois-tu, gloire à toi. Sois libéré de ce problème, que cette glande thyroïde fonctionne par la puissance de Jésus, le ressuscité, le vivant. Au siècle d'ici, celui qui n'a jamais changé, celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia, merci Seigneur. Tu as vaincu la mort, alors pour toi ce n'est rien de rétablir une glande thyroïde. Alléluia, loué, loué sois-tu. Alléluia, alléluia. Louons le Seigneur, applaudissons le Seigneur. Ressuscité. Et nous nous courbons devant ta sainte majesté et nous te donnons toute la gloire.